Chers auditeurs de Radio Courtoisie, en ce début d'été, j'ai le plaisir de vous inviter à faire la connaissance d'un gentilhomme des temps modernes, Adrien Mahieu, qui nous révèle ce qu'est selon lui le sens du terme gentilhomme et ce qu'il doit représenter dans notre société. Tout en exerçant une profession juridique, Adrien Mahieu mène des actions en faveur de la promotion d'un art de vivre que certains jugent dépassé, d'autres au contraire très actuels, des derniers enfin intemporels. Il est le responsable du programme musical de cette émission. Adrien Mahieu, bonjour.
Bonjour Monsieur Richard.
C'est un peu provocateur aujourd'hui de parler de l'idéal de gentilhomme. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Je pense que c'est tout le contraire. Je pense justement que c'est quelque chose d'absolument important et surtout actuel pour un point. C'est que nous sommes... Il faut que je parle plus dans le micro ?
Oui.
D'accord. C'est une notion qui est importante parce que nous sommes dans une phase de transformation, notre société, et une phase de recomposition des élites. Les élites, elles ont plusieurs fois évolué dans l'histoire, il y a eu plusieurs phases de recomposition. On peut penser à la recomposition des élites qui a eu lieu au moment de Napoléon Ier.
Vous prenez cette recomposition assez tard, donc.
Oui, là, je prends dans ce qui est le plus observable, dans le plus récent, la recomposition des élites qu'il y a eu sous la Troisième République. Donc, il y a toujours des recompositions politiques. La dernière élite qui est aujourd'hui, si j'ose dire, au pouvoir en France, c'est l'élite de mai 68. Ce sont les héritiers de mai 68 qui ont remplacé cette élite des hauts fonctionnaires gaulliens qu'il y avait avant. Mais voilà, nous avons un esprit qui est l'esprit post-68, qui est l'esprit de nos élites. Et aujourd'hui, on voit bien que ce système s'effondre, ce système ne tient pas. Et donc, il faut penser aux élites qui suivra. Et en fait, c'est ça qui est important. Je me mets en porte-à-faux de l'esprit purement révolutionnaire. Je ne crois pas, un peu comme Orwell. Orwell disait toujours, il y a trois classes, une classe qui domine, une classe intermédiaire et le peuple. Et on fait croire à chaque révolution que c'est le peuple qui fait la révolution. Or non, c'est une classe intermédiaire qui remplace une classe
dominante. Qui manipule le peuple.
Exactement. D'ailleurs, même la Révolution française, qui n'a d'ailleurs de français que le nom... c'est pas une émission d'histoire, mais effectivement, on sait qu'il y a eu l'Angleterre a énormément financé des révolutionnaires, notamment par des manettes. Or, pas tous. On peut dire que je crois que c'était Mirabeau et Robespierre qu'on appelait les incorruptibles parce que c'était les seuls qui ne touchaient pas les manettes diplomatiques des Anglais. Bon, je suis pas là pour parler d'histoire, mais force est de constater que je crois en un principe qui est le principe que nous avons des élites.
Oui.
Et donc, la question, c'est quelles élites allons-nous choisir ? Je vais revenir sur ce point un petit peu après, mais...
Et comment pouvez-vous savoir que nous allons choisir telle élite ou plutôt une autre ?
Une élite se forme.
Mais est-ce qu'elle arrive inévitablement au pouvoir, entre guillemets ?
Je pense que l'histoire, c'est une question de rapport de force... Et donc, c'est un affrontement entre les élites. Donc, quand on défend quelque chose, quand on défend un modèle, une société, une civilisation, on défend un projet et il faut une élite pour porter ce projet. Et donc, il faut réfléchir à quelle élite on choisit pour porter ce projet. Et après, c'est une bataille, c'est la bataille des idées. Et donc, une élite perdra, une autre élite gagnera.
Voilà, donc on ne peut pas dire que plus tard, ce sera telle élite qui va qui.
Non, mais on peut essayer de se dire, formons cette élite, parce qu'il arrivera un temps de changement.
D'accord.
C'est la fin de l'hégémonie d'une élite, donc nous allons arriver à une nouvelle élite, et c'est cette élite qu'il faudra former. Alors, j'aimerais revenir, je pense que c'est bien de commencer une conversation par la définition des termes.
Mais exactement, c'est ce que j'allais vous demander, parce que vous parlez d'élite, vous parlez de gentilhomme. Est-ce que gentilhomme, ça ne se réfère pas au passé, hein, gentilhomme ? Ça n'existe plus, les gentilhommes, de nos jours ?
Alors, j'aimerais qu'on revienne sur, effectivement, ces différentes... Il y a différentes, en plus. J'utilise le terme gentilhomme, il y a d'autres termes, et j'ai envie de tous les décortiquer un peu
pour comprendre
une idée générale.
Il y a aussi l'honnête homme.
L'honnête homme, il est dans ma liste. Alors le terme gentilhomme, il a comme origine le Moyen Âge à partir fin Moyen Âge pour être honnête. Alors au début, il désigne un noble, quelqu'un de noble naissance, qui est différent du, enfin gentil, ça désignait quelqu'un de noble.
Oui.
Un gentilhomme, c'était un noble. Mais alors, dans les définitions anciennes, on peut remarquer que celui qui anoblit n'est pas gentilhomme. Ce sera son fils qui sera gentilhomme. Il faut être né noble pour être gentilhomme. Mmh.
C'est comme l'écuyer et le chevalier.
Exactement. Mais il y a une évolution qui va arriver, principalement à partir du 16e, 17e, qui va faire évoluer le terme vers une dimension morale. C'est un homme de distinction, de courtoisie, de générosité, indépendamment seul de la naissance. Mmh. Et voilà, je vais vous citer le fameux Larousse, un homme noble de naissance, trois petits points, plus loin, homme qui montre la délicatesse, de la prévenance. Encore une fois, on attache des valeurs morales à cette idée-là. Il y a un terme qui est beaucoup plus utilisé, pourquoi, et ça il faut le comprendre, c'est le terme de gentleman.
C'est à peu près la même chose, mais en anglais.
C'est exactement la même chose, c'est gentilhomme en anglais. Mais aujourd'hui, vous avez très peu de personnes qui utilisent le terme de gentilhomme, alors que le terme gentleman, vous l'entendez, il est usé encore et encore.
Mais peut-être parce qu'en Angleterre, il n'existe toujours des gentilhommes, des gentilshommes.
Je vais y venir. Le gentleman anglais, il faut comprendre une chose, c'est que avec la Révolution française, en fait, la cour royale de France dirige tout ce qui se rattache à la politesse, la courtoisie, à l'élégance. Versailles et Paris dirigent l'Europe. C'est-à-dire quand on se pose la question de comment on doit s'habiller, comment on doit se tenir, comment on doit se porter, on s'en réfère à Paris et à Versailles. Alors que, à partir de la Révolution française, tout le 19e se pôle et passe la Manche, et c'est la cour d'Angleterre qui va définir.
À partir de quand ?
Dès le 19e.
Ah oui, c'est ça.
Certains disent c'est à partir de Beaubrumel.
Sous Napoléon III, la cour impériale.
Elle a plus l'influence que la cour d'Angleterre.
Sous la reine Victoria, la cour d'Angleterre n'avait pas beaucoup d'influence.
Détrompez-vous.
Non.
La manière dont on se vêtit. Excusez-moi. La manière dont on se vêt, enfin, tout ce qui va tourner autour de le vêtement, l'élégance, etc. Et notamment la politesse. Alors là, il y a un bouquin que je vais recommander, je re-recommanderai, c'est Histoire de la politesse de 1989 jusqu'à nos jours. C'est de Rouvillon, je vais retrouver ça dans mes notes. Il explique très bien, c'est qu'en fait, le 19e, c'est l'apogée de la politesse bourgeoise. Et l'apogée de la politesse bourgeoise, c'est que, en fait, c'est l'idée. L'égalitarisme a fait son chemin, on croit toujours. On en a fini avec l'idéal purement révolutionnaire. Oui.
Il faut parler plus près du micro.
Ah, plus près du micro, j'avais pas compris. On en a fini. Vous savez, pendant la Révolution française, tout le monde devait se tutoyer, on avait mis fin au vous. On s'appelait citoyen, etc. Oui. On avait mis fin au monsieur. Tout ça a très vite disparu. On est revenu à une politesse classique. Mais on est allé vers ce qu'on appelle la politesse bourgeoise, qui est en fait l'égalitarisation de la politesse. C'est-à-dire que tout le monde, au-delà, avant il y avait une politesse pour les nobles, c'était séquencé. Aujourd'hui, c'est une politesse, l'idée de la politesse universelle. Et comme c'est l'Angleterre qui va définir les codes et les usages, à partir du 19e, en fait, cette politesse bourgeoise, elle va se rattacher à la personne du gentleman. Là où le gentilhomme désignait vraiment, dans l'idée de l'Ancien Régime, le noble, le gentleman, eh bien, n'importe qui, et c'est dans l'esprit de nos contemporains, n'importe qui peut devenir un gentleman. Vous voyez quelqu'un de très chic, très sympathique, vous dites « Ah, c'est un gentleman ». Vous n'allez pas dire « Ah, c'est un gentilhomme ». Et je sais que Radio et Courtoisie y est attachée, à la lutte contre l'anglicisme. Moi aussi, je suis attaché à la lutte contre les anglicismes, donc je préfère le terme de gentilhomme.
Bon, enfin, gentleman, bon, fait partie du français maintenant.
Oui, mais quand même, je suis attaché. Surtout que la vision anglaise, elle est plus pragmatique. C'est, C'est donc Popov. J'avais dit. Oui, c'est bon. Je reprends mes notes. Il y a le terme aussi aristocrate, aristocratie, alors très ancien, qui vient du grec aristos, meilleur, et kratos, le pouvoir. Et ça, c'est l'idée. J'aime beaucoup le mot aristocratie parce qu'il ne se rattache pas à la noblesse. La noblesse, c'est vraiment un corps social, l'ancien régime. L'aristocratie, c'est quelque chose qui transperce les âges et qui définit beaucoup plus une notion généraliste.
Même si les deux termes sont devenus synonymes à la fin.
Oui, ils sont devenus synonymes, mais le problème de la notion d'aristocratie, c'est qu'elle peut faire un peu pédant, mais c'est un aristocrate. Mais j'aime beaucoup, en fait, le terme a évolué, notamment avec l'Empire, avec l'idée que l'aristocratie était quelque chose, notamment au mérite.
Oui.
Vous avez une évolution. Ça, c'est quelque chose que je porte. Or, je ne suis pas spécifiquement un bonapartiste. Je vais te dire mon droit de réserve, mais je suis plutôt quelqu'un d'assez. Je vais pas dire mes opinions.
Oui, on le dira à la fin, peut-être.
mais voilà, je ne suis pas spécialement bonapartiste. Mais ce que j'aime beaucoup chez le bonapartisme, c'est cette idée que. En fait, quand une élite décrépite, ce qui était le cas de la noblesse à la fin de l'Ancien Régime, il faut un peu régénérer ce qu'avait voulu faire le bonapartisme au travers de sa nouvelle noblesse, la noblesse d'Empire. D'ailleurs, parfois, ça se confondait. Moi, j'ai un cousin qui vient d'une famille qui est à la fois noblesse d'Ancien Régime
mais
et noblesse d'Empire.
Mais vous savez que les deux tiers des familles anoblies par Napoléon étaient des familles de noblesse d'Ancien Régime. Et elles ont souvent deux titres, enfin quelquefois, celles qui sont très titrées, ont un titre d'Ancien Régime et un titre d'Empire.
C'est pour ça que moi je connais une famille qui a à la fois la couronne de comte d'Ancien Régime et la, je crois on dit une tiare pour les barons.
Un tortil.
Le tortil de baron.
Ils sont bien pourvus, ils sont bien coiffés.
Oui, ils sont bien coiffés. Donc la noblesse, je l'ai dit, c'est un corps social qui n'existe plus. Alors je suis au regret de décevoir l'ANF, mais la noblesse n'existe plus. Pour une bonne, nous en avions déjà discuté, c'est que la noblesse a entièrement fait dérogeance et le corps social en tant que tel n'existe plus. C'est pour ça que...
La noblesse n'existe plus juridiquement.
Elle n'existe plus juridiquement, mais... Oui, mais ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, entre de ce qu'on peut appeler les bonnes familles, entre la vieille bourgeoisie, l'ancienne bourgeoisie et l'aristocratie, il n'y a plus beaucoup de différence. Et à part la particule, sachant qu'aujourd'hui tous les nobles ont un métier, il n'y a plus des nobles qui n'ont pas de métier, qui vivent uniquement de leur rente, il y en a plus beaucoup. Et quand on voit des nobles qui sont banquiers, sachant que c'était le grand crime pour la noblesse d'être banquier à une époque, c'est pour ça que le terme c'est pas un terme que j'aime utiliser. Alors il y a deux termes que j'aime beaucoup. C'est l'honnête homme, vous en aviez parlé, qui est une idée centrale à partir du XVIIe siècle.
Oui.
Je pense à Saint-Jean-Baptiste de La Salle.
Oui.
Qui a écrit un ouvrage notamment sur l'honnête homme, sur c'est un guide de savoir vivre avant la baronne de Rothschild.
Oui. Mais Montaigne qui est un peu à l'origine de l'idéal de l'honnête homme.
C'est ça. Donc voilà, c'est en fait s'il remplace l'héroïsme guerrier par un homme de modération, de culture générale, de courtoisie, d'agrément en société, quelqu'un qui est non pédant, adaptable et vertueux sans ostentation.
Et qui sait prendre les armes s'il le faut.
Exactement. Alors, d'ailleurs, j'ai une citation, j'ai quelques citations clés. Jules Renard, il est plus facile d'être héros qu'honnête homme. Héros, nous pouvons l'être qu'une fois par hasard. Honnête homme, il faut l'être toujours. Et le chevalier de Méret, le parti qui plaît aux honnêtes hommes, aux honnêtes gens, est celui de la franchise et de la simplicité. Et un autre terme que j'aime beaucoup, qui est le terme de prud'homme.
Oui.
Alors, vous connaissez peut-être le Conseil des Prud'hommes, qui est un tribunal, pour faire simple.
Je n'ai jamais eu affaire à lui, mais je sais qu'il existe.
C'est ça, qui juge les affaires entre les salariés et les employeurs.
Oui.
Et le terme prud'homme, la première fois que je l'avais lu, c'était dans Contes et légendes du Moyen-Âge, un très bon livre. Et en fait, ça vient du latin, c'est prude ne veut pas dire prudent, ça vient du latin probus, qui veut dire probité.
Oui.
Et donc c'est l'idée d'un homme sage, intègre, Et au Moyen-Âge, c'était une manière de désigner quelqu'un qui n'était pas noble, mais qui avait tous les apanages de la noblesse. Voilà, quelqu'un de sage, inter, souvent un juge ou un notable local. Donc voilà, il y a l'idée d'une sagesse pratique, de l'honnêteté. Donc c'est aussi quelque chose auquel il faut aspirer.
D'ailleurs, vous savez, dans les actes, on trouvait, par exemple, des actes d'état civil, honnête Germain Pilon a pris pour épouse la très discrète Marianne Jocelyn, par exemple.
Je me demande même si le prénom Honoré ne vient pas un peu de cela, un peu de...
Ah non, c'est bien de Saint-Honoré.
Oui, non, oui, vous avez raison. Saint-Honoré. Qui ne se donne plus beaucoup comme prénom, d'ailleurs.
Non, il se
donne en Afrique.
En fait, j'ai un assistant qui s'appelle Honoré.
Ah oui ?
Mais ils sont tous en vacances, là, pour le moment.
Ah bon.
Alors là, nous avons passé en revue toutes les acceptions. Toutes les dénominations qu'on peut donner à ce qui est le véritable gentilhomme.
Exactement. Alors, moi, j'aimerais passer sur le fil rouge. C'est une idée centrale que je défends, c'est que, vous savez, pour le chrétien, l'idéal est la sainteté.
Oui.
Nous aspirons tous, en tant que chrétiens, à devenir saints. Eh bien, je considère que le gentilhomme, ça doit être la sainteté du citoyen. C'est-à-dire l'idéal aristocratique auquel tout citoyen doit
aspirer.
Aspirer, voilà. J'essaye de me former, j'essaye de m'élever pour avoir une place dans la société qui est celle d'un gentilhomme. C'est pour ça que moi je critique en soi, je pense que cet idéal civique de l'idéal aristocratique est salutaire pour la France parce que je pense que l'idéal égalitaire, alors je ne dis pas que toute égalité est mauvaise, il y a des bonnes choses dans l'égalité, il y a des choses qui sont de bons apports de l'égalité, mais je pense que nous sommes tombés. Je vais citer d'ailleurs...
Il y a différence entre égalité et égalitarisme.
Oui, voilà. Mais c'est ce que Tocqueville appelait la passion dépravée pour l'égalité.
Voilà.
Et donc c'est ça, nous sommes tombés dans une société qui est tombée dans cette passion dépravée pour l'égalité, une société qui préfère l'égalité dans la servitude à l'inégalité dans la liberté. Ça, c'est une citation d'Aristote. Voilà, il faut, je pense que, d'ailleurs quand on remarque, je prends la démocratie athénienne. La démocratie italienne, c'était des citoyens qui, parce qu'ils ne travaillaient pas, il faut aussi comprendre le système de la citoyenneté athénienne, c'était des citoyens qui se formaient, parce qu'ils avaient des esclaves pour travailler pour eux. Attention, je ne dis pas que je suis pour l'esclavage, je dis juste que c'était un modèle de société où le citoyen était conçu comme entièrement dédié à la politique. Et un citoyen, c'est l'idée que dans une démocratie, le citoyen qui s'éloigne de la vie de la cité, c'est un citoyen qui devient un poison pour la cité. Et c'est pour ça qu'il faut toujours s'élever pour être le plus à même de tirer la société vers le haut. Et puisqu'il y a toujours eu des élites, il faut les choisir et les former. Alors c'est Vilfredo Pareto qui écrivait sur la question de la circulation des élites. Quand les élites déclinent et perdent de la vitalité, cela nécessite un renouvellement qui se fait par le mérite et la vertu. Donc, hop, je vais mettre mes papiers ici. Donc voilà, je pense qu'il faut que les gens retournent vers cet art de vivre à la française. L'enracinement, je pense qu'en fait, notre élite, elle a besoin d'enracinement. Et s'enraciner
dans... Là, maintenant, vous nous parlez un peu des caractéristiques de...
Oui, je suis... Enfin, dans l'idée générale, qu'il faut défendre un art de vie à la française qui se passe par l'élégance, des rituels, une harmonie, un enracinement. Parce que ces traditions sont un rempart contre la décivilisation.
Bon, là, il y a beaucoup de termes qui demandent des éclaircissements.
Une décivilisation, c'est quoi ? Une décivilisation, c'est quand une civilisation n'affirme plus rien. Une civilisation, ce sont des affirmations de principes, de vertus, d'axiomes. Une société qui n'affirme plus ses axiomes, ses vertus, ses idées, se décivilise.
C'est-à-dire que c'est une société qui s'individualise.
Exactement, c'est l'individualisme. Et au-delà de l'individualisme, c'est qu'elle perd son identité. On parle tout le temps des valeurs de la République, par exemple, mais on ne les définit jamais. Et en réalité, même s'il fallait définir les valeurs de la République, si on comprenne celles de la 5e, de la 3e ou de la 1ère, qui portaient quand même des valeurs,
est-ce qu'aujourd'hui... Lesquelles sont-elles ?
Aujourd'hui, je vais pas m'aventurer là-dedans, ça serait une émission, je pense que ça serait une émission à part entière, mais est-ce qu'on peut dire honnêtement aujourd'hui que notre, dans l'état actuel de notre pays, on défend, enfin, est-ce que vous avez le sentiment que les valeurs de la République sont toujours présentes ? Je ne dis pas quelles sont-elles, mais est-ce que vous avez le sentiment au fond de vous que les valeurs de la République sont toujours présentes ?
Moi, je ne le sais pas, je ne les connais pas, les valeurs de la République.
Moi non plus, mais c'est une... j'ai ma petite idée, mais ce sera l'objet d'une autre émission, je pense.
Oui, enfin, on sait à peu près ce que ça recouvre.
Oui.
C'est, de toute façon, c'est un petit peu les idées chrétiennes abattardies.
Voilà.
Laïcisées, édulcorées, et sans beaucoup de ni d'envergure ni d'ambition.
C'est oui, sont surtout les idées d'un clergé, d'un autre clergé.
Mais oui, si on veut.
Parce que c'est toujours ce que je dis, les religions en remplacent toujours d'autres. Mais il n'y a jamais d'absence. Enfin, religion, ça vient du latin religare, ce qui relie. Donc en réalité, il peut y avoir des religions laïques. Je considère que la laïcité peut être une religion en tant que telle. C'est une idée que je défends, mais bon. Nous allons aborder la deuxième partie. Est-ce qu'il y a une musique ? Je ne sais pas.
Mais on peut passer une musique.
Je ne sais pas.
Alors, c'est la première musique que nous allons passer. Devinez laquelle c'est. Eh bien, je vais vous le dire, parce que c'est vous qui l'avez choisi. C'est de Sergueï Prokofiev, La danse des chevaliers du ballet Roméo et Juliette, qui est interprétée ici par Adrien Lamarca et Tanguy de Villancourt en 2020. Alors, chers auditeurs de Radio Courtoisie, en ce début d'été, j'ai le plaisir de vous inviter à faire la connaissance d'un gentilhomme des temps modernes. Vous avez déjà eu le plaisir de l'écouter pendant la première demi-heure, enfin les premières 20 minutes de cette émission, Adrien Mahut, qui nous révèle ce qu'est selon lui le sens du terme gentilhomme et ce qu'il doit représenter dans notre société. Tout en exerçant une profession juridique, Adrien Mahut mène des actions en faveur de la promotion d'un art de vivre que certains jugent dépassé, d'autres au contraire très actuels, les derniers enfin intemporels. Alors, après avoir égrené quelques définitions du gentilhomme, évaluer la différence entre les termes, il faut maintenant passer à un stade plus concret et nous dire en quoi cette valeur du gentilhomme se décline. Alors, la première caractéristique que Adrien Mahut nous soumet, c'est la famille. Alors, la famille, En quoi la famille définit-elle aussi le gentilhomme ?
Alors, ce n'est pas la seule chose qui définit le gentilhomme, bien sûr. On peut tout à fait, sans avoir de famille, ou n'ayant pas forcément, ne venant pas d'une ce qu'on pourrait appeler une bonne famille, une vieille famille, on peut être amené à devenir, à aspirer, si j'ose dire, aspirer à devenir un gentilhomme, à devenir, voilà, adhérer à l'idéal aristocratique. Cependant, la famille, c'est vraiment un pilier, et même si vous ne venez pas de ce monde-là, il faut aspirer à créer ce monde-là vous-même.
Mais quel monde ? Il y a toujours, à la base de la société, il y a quand même des familles.
Bien sûr. Mais moi, je dirais que vous ne devez pas seulement faire une famille, vous devez faire une maison. Une maison au sens ancien, une dynastie. Une maison, vous savez, c'était le terme pour...
Mais bien sûr. La maison du roi, la maison de la reine.
Voilà. Et donc, en fait, il faut comprendre une chose, c'est que les élites... Elles se forment dès l'enfance. Je suis d'ailleurs un compte, je ne sais plus s'il existe toujours, là-dessus, sur Instagram, qui explique effectivement tous les ressorts d'éducation. Je ne sais plus le terme, mais voilà, c'est un enfant qui fera partie de l'élite, un individu qui sera amené plus facilement à faire partie de l'élite, c'est un individu qui a reçu des armes dès son enfance. Et donc pour cela, il faut qu'il ait un cadre familial. Mmh. Et c'est un enjeu de fonder une bonne famille, c'est un enjeu personnel pour ses enfants, pour qu'ils aspirent au meilleur, bien sûr, mais c'est un enjeu aussi pour le pays, parce que c'est une question qui se pose d'autant plus à notre époque.
Oui, mais est-ce qu'on ne va pas vous dire... que c'est toujours la duplication, la triplication, je ne sais pas comment on dit, de toujours les mêmes élites.
Ben non, justement. Hein, nous avons fait, après partir de mai 68, avec la génération des fameux boomers, nous avons fait une élite, mais qui aujourd'hui ne fait plus d'enfants. Ne fait plus d'enfants. Et en fait... nous sommes dans un stade où la natalité française est à un niveau catastrophique. Oui. Vous vous rendez compte que les statistiques officielles nous ont dit qu'on était passé en dessous de la Seconde Guerre mondiale. Enfin, je n'ai plus les chiffres exacts en tête, mais on a une très, très, très faible natalité. Et à tel point qu'aujourd'hui, même le gouvernement tire la sonnette d'alarme.
Oh, il la tire parce qu'on la lui fait tirer. Sinon, je ne pense pas que ce soit sa plus grande inquiétude.
Oui, non, bien sûr, mais... il y a une guerre démographique, enfin pas une guerre en sens guerrier, mais il y a un enjeu démographique, un enjeu de puissance et de survie culturelle. Là-dessus, le gentilhomme, ça doit être une figure, celle du bon père de famille, celle de quelqu'un qui doit aller vers créer une famille, ce qui est difficile à notre époque. Aujourd'hui, moi j'en connais beaucoup, d'ailleurs je suis un homme donc je parle... du point de vue des hommes, mais c'est aussi parfois difficile pour les femmes. Moi, je connais beaucoup de femmes qui aimeraient fonder un foyer et qui ont du mal à trouver un homme qui soit solide, qui soit construit, avec des bonnes valeurs. C'est difficile. Et c'est pour ça que, et aussi en tant qu'homme, on peut être amené, ça peut être difficile. Moi, j'ai mis des années à trouver chaussures à mon pied. C'est difficile de trouver des gens avec qui on peut se correspondre sur le plan des valeurs, d'un idéal... de la foi, des croyances. Vous voyez, c'est une époque très compliquée où les relations entre les hommes et les femmes, elles sont complexes, elles sont abîmées. Et donc, la question de fonder un foyer, c'est un enjeu de première importance. Et c'est savoir comment on le fonde. C'est non seulement réfléchir aux relations au sein du couple, mais c'est aussi réfléchir aux relations avec les enfants, à l'éducation qu'on peut leur donner.
Et puis au sein de la société quand même. Une famille, les familles sont, on le dit suffisamment, sont la première cellule de la société.
Exactement.
Et si une fois que la famille s'écroule, bon, ben, la société s'écroule. Et si la personne qui fonde une famille n'a pas le sentiment de fonder cette première cellule de la société, si elle n'a pas le sentiment qu'il est de son devoir de créer cette cellule, la société s'effondre. Est-ce que ça ne correspond pas aussi à une baisse du sens civique,
Oui, parfois pour taquiner, je dis à mes amis, j'ai quelques copines qui sont en passe de se marier ou qui sont mariées, et Parfois, je le taquine, je lui dirai, bah, tu feras des enfants pour la France. Mais il y a un peu de vrai derrière cela. Il y a un peu de vrai au sens où, certes, on fait des enfants pour soi, pour sa famille, mais il y a aussi un sens commun de la natalité. Il ne faut pas l'oublier. Bien sûr, ça ne doit pas être celui qui prime, mais c'est la lutte contre l'individualisme. En fait, faire un enfant, c'est le geste le plus altruiste.
Bien sûr, mais on le dit, qui ne paiera nos retraites tout, de manière très très pragmatique.
Après, moi, je ne fais pas des enfants pour qu'ils payent mes retraites. Moi, j'ai envie que mes enfants, ils héritent au contraire d'un monde qui soit beau, qui soit le nôtre. Parce que la France est le plus beau royaume sur cette terre après le royaume du ciel. Mais je ne conçois pas les enfants uniquement pour faire les retraites. Je pense qu'il faut faire des enfants pour aspirer à des choses encore plus grandes, nobles.
Certainement, mais malgré tout, une société qui n'a plus d'enfants.
Mais bien sûr.
Tombera non seulement. Bon, elle va s'éteindre d'elle-même, mais elle va s'éteindre dans la plus noire misère.
Je suis d'accord. Ben alors, ça, moi, je pense qu'on devra faire une émission sur l'économie de manière générale. Alors, j'en toucherai un mot en fin d'émission, mais la question économique, elle joue beaucoup. Je pense qu'un des points les plus importants qu'il faut replacer au centre du débat, c'est la question du mariage. Je pense que parce qu'on a désacralisé le mariage, et surtout que ben, aujourd'hui les gens ne se marient plus, ça participe un peu de cet effet délétère pour les couples, les foyers, etc. Avant, le mariage était vraiment un sacramentel. Non, c'est pas un sacramentel, c'est un sacrement.
C'est un sacrement, tout simplement.
Je suis en train de dire des bêtises. Je vais finir excommunié.
Oh, non, on est excommunié pour bien pire maintenant.
Non, maintenant, on est plutôt excommunié pour des sacres sans autorisation.
Oui. Allez, passons.
Donc, il faut remplacer. En fait, toute civilisation, elle a besoin de rites. D'ailleurs, je pense, j'avais un moment réfléchi à classifier les civilisations. Et je pense que le premier élément qui nous permet de la classification, c'est les rites. Le rite, c'est une chose primordiale dans ce qui définit une culture. Et donc, le rite du mariage, comme sacrement, c'est un élément qui doit être central et pilier de la famille, parce que ça donne à l'union de l'homme et de la femme une dimension sacrée. Et si je veux dire la noblesse, l'aristocratie, au sens noblesse, au sens d'âme, ça passe par l'idée de sacralisation.
Bien sûr.
De remettre le beau.
Le beau, le grand, le noble.
Le grand, voilà, exactement. C'est Dostoïevski qui disait « Le beau sauvera le monde ». On est dans cette idée-là. Et comme la famille est le pilier d'une société, il faut vraiment la défendre. Alors, il y avait d'ailleurs, j'ai une perspective chrétienne, je l'avais noté, qui disait « La famille, c'est l'église domestique ».
Oui.
Il ne faut pas l'oublier.
Et si nous passions une deuxième petite musique, cher ami
Alors, je finis vite fait avec des exemples concrets, comme
bon,
ça.
D'accord.
Voilà. En fait, pour l'éducation des enfants, enfin, pour le choix du conjoint, en fait, souvent les gens font de mauvais choix. Il faut prioriser avant tout tout ce qui va être de l'ordre du caractère, de la foi, des valeurs partagées, de l'enracinement. Éviter la précipitation, éviter simplement tout ce qui est de l'ordre de la passion. Et
oui, mais vous allez dégoûter tout le monde du mariage.
Je sais. Et surtout dans les relations, prioriser au-delà de l'amour tout ce qui va être l'ordre du respect mutuel, de la courtoisie au quotidien, et éviter les égoïsmes modernes. J'ai toujours admiré les couples qui se vouvoyaient, par exemple. Je sais que ça peut paraître bizarre, mais moi-même je ne le fais pas, mais je trouve qu'il y a une force d'amour encore plus grande. Et pour les enfants, il faut aller vers des choses concrètes. Premièrement, pour les écoles, préférer des établissements traditionnels, si possible catholiques. Avoir de l'instruction en famille, revoir les programmes chez soi, s'occuper de ses enfants le temps que possible, avoir des activités extrascolaires.
Et pourquoi catholique ? Là, je reviens là-dessus. Pourquoi catholique ? Alors en Allemagne ?
Non, mais en Allemagne, ils seront protestants, je sais pas. Je prends catholique parce que c'est la culture française de notre civilisation.
Oui.
Je serai au Bhoutan, je parlerai du bouddhisme.
Ah oui.
Donc voilà. Donc voilà, c'est le catéchisme, le scoutisme, la chorale. Apprendre la modestie, la distinction dès le jeune âge. Ne pas donner des baskets à ses enfants. Leur donner des petits souliers. des vêtements soignés.
Vous allez vraiment
humbles.
Dans le détail, là.
Ah, mais je vais dans le détail. Vous m'aviez dit, lors de la préparation de cette émission, qu'il fallait du concret.
Oui, oui,
voilà. Or, c'est le cliché de la petite fille en col Claudine avec sa tête, mais c'est un peu ça. C'est un peu ça qui s'incarne. Et il faut... parce que c'est des valeurs qui sont supérieures. Et il faut aussi maintenir l'autorité et la discipline dans la famille. En tant que père de famille, ben, on est amené à devoir incarner cette autorité. Alors, aujourd'hui, les choses ont évolué. Cette autorité, elle est partagée avec son épouse, bien que je pense que les rôles restent quand même différents. Et surtout, il faut créer des habitudes dans sa famille. Ça peut être de la lecture, les prières, les devoirs, etc.
C'est ce que vous appelez les rites.
Les rites. Et aussi, les modèles d'action, non seulement dans les routines quotidiennes, comme les repas toujours pris ensemble en famille, ça oui. C'est important, mais une éducation à la vertu, les tâches ménagères partagées, par exemple, ou éducation, et dès le plus jeune âge, éduquer les enfants à la musique classique, par exemple. Donc voilà, avec des activités qui élèvent...
Oui, mais ça, élever les enfants à écouter de la musique classique, et ça, c'est réservé à une très petite élite.
Mais pas du tout. Moi, je pense que vous savez, Radio Classique, c'est gratuit. Enfin, vous allumez votre poste radio.
Oui, mais...
Je pense au contraire que...
Mais vous savez, la culture n'a jamais été aussi accessible
qu'avec
l'Internet.
C'est justement parce que la culture est accessible qu'on a encore plus les armes pour devenir soi-même un gentilhomme.
Mais ça ne plaît pas forcément à tout le monde. Je ne sais pas si la culture doit passer par les arts aussi. Après, il faut une bonne culture de base.
Je
crois d'abord la langue.
La langue aussi. Oui, je suis d'accord avec vous sur la langue, mais détrompez-vous sur la culture.
L'histoire.
Ou l'histoire aussi.
La géographie, c'est savoir ne pas placer Châlons en Champagne au sud de Perpignan, par exemple.
C'est mon petit point de désaccord avec vous, c'est que c'est Gramsci. Vous connaissez Gramsci ?
Oui.
La culture, c'est un des trois piliers qui permet un changement culturel. Donc je suis en désaccord avec vous là-dessus. Je pense qu'il ne faut pas déserter la culture, bien au contraire, il faut la réinvestir.
Oui, mais ce ne sera peut-être pas du domaine de chacun.
Ah, pas tous. Mais comme je dis, quand on forme une élite, ça n'est pas... Je dirais, c'est pour toutes les bonnes âmes volontaires, mais ce n'est pas pour tout le monde.
Et puis certains peuvent prendre... accepter une certaine discipline pour certains aspects de la culture, et puis, bon, trouver
que... Oui, il faut un équilibre. Un équilibre dans tout.
Et puis, les fêtes de village.
J'en parlais, ça c'est une autre partie.
Elles sont sympathiques. On n'y joue ni du Brahms, ni du Bach.
Je suis d'accord. Mais alors, ça c'est une autre partie. Nous allons trop vite. Là, nous passons à la partie 3.
Ah,
est-ce
bon.
Qu'on a une interlude musicale?
Ah, mais tu, vous n'aviez pas voulu que je le passe. Alors maintenant, nous allons passer à un intermède musical. Et alors, cet intermède, ben, nous le devons à Edvard Grieg. Dans l'antre du roi de la montagne, extrait du drame musical Peer Gynt, interprété ici par le chœur et l'orchestre symphonique de San Francisco. Thank you.
les émissions de Radio Courtoisie arrivent chez vous. Les émissions de Radio Courtoisie viennent à vous, partout. Désormais, dans vos voitures, à vélo, en transport en commun, elles vous accompagnent partout, dans vos téléphones, dans vos poches, 24 heures sur 24. Radio Courtoisie avec vous, politique, société, religion, littérature, histoire, culture, 24 heures sur 24. Nos paroles s'envolent sur toutes les plateformes, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Amazon Music et sur notre site internet rc.fr et podcast.rc.fr. La liberté, ça n'a pas de prix et c'est gratuit.
Bon, chers auditeurs de Radio Courtoisie, nous reprenons le cours de notre propos sur le gentilhomme à l'époque moderne, si jamais il existe. Et nous avons pour ce faire, comme invité, le très brillant Adrien Mahut, qui nous parle justement de la nature de ce gentilhomme, de ses activités et de l'action qu'il a sur la société. Alors, vous nous avez montré tout dernièrement, ce que devait être la famille du gentilhomme. Un gentilhomme, donc un père de famille, avec des enfants nombreux, si je comprends bien.
Ah oui, je suis un défenseur de la famille nombreuse. C'est une merveille, élevé
selon la foi chrétienne en France, bien sûr, patriote de toute façon. Et de toute façon, un patriote en France peut-il ne pas avoir la foi ?
Ben, j'y viens, c'est la partie que nous allons aborder. Oui, je pense qu'on peut être patriote. Patrie, c'est un terme que j'aime beaucoup. Je préfère à celui de nation, d'ailleurs. Parce que patrie, ça renvoie à la terre des pères. Et nous sommes une civilisation de cimetière, quelque chose qui est très beau. J'enjoins vraiment tout le monde à un jour, au moins une fois dans l'année, au minimum, aller sur les cimetières de ses ancêtres ou de ses proches et de les fleurir. C'est une chose importante parce que nous sommes dans une civilisation de la mémoire, du souvenir. Et
d'ailleurs, maintenant, les cimetières sont de moins en moins fleuris.
Il y a
de moins en moins les concours de grandes foules lors de la Toussaint. D'abord, les gens ne se déplacent pas pour la Toussaint.
Maintenant, Halloween, c'est plus commercial.
Non, mais autrefois, la Toussaint était quand même une date importante parce qu'on savait qu'on allait au cimetière. On ne savait pas exactement pourquoi, mais c'était le jour où on allait au cimetière. Tandis que maintenant, non seulement le contenu a disparu, mais on ne va plus au cimetière. D'ailleurs, maintenant, les gens sont brûlés. Alors, apporter des fleurs à des cendres, ça paraîtrait un peu ridicule. Tout ça nécessite une régénérescence.
Je ne veux pas critiquer en croyant catholique, je n'ai pas en soi mon avis à dire, mais je pense que c'est une erreur effectivement de l'Église, l'autorisation de la crémation.
Oh, elle l'autorise du bout des lèvres.
Oui, on s'entend bien, mais je pense qu'il aurait fallu être peut-être un peu plus strict là-dessus. Bon, mais je ne suis pas là pour juger l'Église, je ne suis qu'un pauvre croyant pécheur.
Un pauvre pécheur, comme moi.
Mais justement, la foi, c'est une question importante. Alors, vous avez dit, pour élever une bonne famille, il faut une famille chrétienne. Je pense que le christianisme, c'est une chose importante, surtout dans notre civilisation. Mais on peut tout à fait être un gentilhomme sans être effectivement chrétien. Mais j'y mettrais des conditions, c'est-à-dire...
Par exemple, Saladin.
Mais encore une fois, un gentilhomme, il est adapté à sa civilisation.
Oui, mais...
Saladin est un gentilhomme pour... son modèle culturel et civilisationnel. Mais
il avait la foi.
Il avait la foi. En fait, c'est ça ce que je voulais dire, c'est que je pense qu'on ne peut pas être un gentilhomme si on n'a pas un modèle spirituel.
Voilà, je crois.
On n'a pas une profondeur, une vie spirituelle riche. La vie spirituelle et intellectuelle, elle donne un sens et une hauteur à la vie. La spiritualité n'est pas seulement religieuse, mais c'est une quête de sens, de beauté, de transcendance et de vertu. Et c'est cette idée que j'avais développée tout à l'heure avec Dostoïevski.
Mais alors,
la beauté sauvera le monde.
Oui, mais alors, tous les mots-là diront.
Mais
est-ce que ce sont des gentils hommes ?
Je ne sais pas si ce sont des gentils hommes, je ne connais pas leurs manières et leurs pratiques.
Ils sont plutôt méchants, non ?
On ne peut pas enlever aux mots-là d'avoir la foi.
Vous pensez qu'ils ont la foi ?
J'en sais rien, je ne les connais pas très personnellement.
Non, mais est-ce que vous pensez qu'on peut avoir la foi et tuer ses congénères ?
L'un n'empêche pas l'autre.
Comment ?
Et c'est, le gentilhomme est...
Le gentilhomme est un homme de modération.
Exactement. Oui, on peut être un fanatique, un...
On peut être un fanatique ?
Non, je veux dire, on peut être un fanatique, mais ce n'est pas compatible avec l'idée d'être un gentilhomme, je pense. Comment s'appelait ce moine à Florence, fou et fanatique, qui brûlait les œuvres ?
Oui, le nom m'échappe. Je le retrouverai d'ici la fin de l'émission, mais je vois très bien. Au XIVe siècle.
Oui, c'est ça. Bon, je pense que lui n'était pas un gentilhomme.
Oh, non, mais il était fanatique. Il croyait, mais il avait une vision très étroite de la foi. Ah, oh, comment s'appelle-t-il ? Si jamais un auditeur...
On demandera aux commentaires.
Mais si jamais un auditeur sait le nom du moine fou de Florence, je crois, et qui a mis à feu et à sang toute la ville, qu'il nous l'envoie.
On le retrouvera rapidement. Je pense qu'à la fin de l'émission, on l'aura retrouvé. Ah, on a peut-être une indication.
Non, non, vas-y.
Donc voilà. En fait, c'est important parce qu'en fait, le gentleman, le gentilhomme, c'est un homme qui a une discipline du corps, de l'âme et de l'esprit. Et donc, en fait, la spiritualité, elle discipline l'âme. Et elle combat la superficialité. Quelqu'un qui a la bonne éducation, mais qui n'a pas la foi, qui n'a pas une profondeur spirituelle, c'est un dandy. C'est pas un gentilhomme. Mmh. C'est ça la nuance. Et moi, je ne cherche pas à être un dandy. Je cherche à être un gentilhomme. Et c'est une nuance subtile, mais qui change tout. Et c'est l'idée vraiment d'une foi personnelle forte, de cultiver l'esprit par la contemplation, la réflexion. Et bien sûr, on a un héritage chrétien qui nous enrichit. C'est pour ça que je dis, quelqu'un qui n'a pas la foi, bien sûr, quelqu'un ne peut ne pas avoir la foi, mais c'est l'idée d'être ouvert à la grandeur. Je dirais toujours à quelqu'un qui n'a pas la foi, écoute, tu n'as pas la foi, mais tu veux t'élever. Eh ben, de temps en temps, va traîner les pieds dans une église, va admirer l'art religieux, et puis de temps en temps, assiste à une messe traditionnelle, juste pour voir, même si tu n'as pas la foi. Et je pense que c'est déjà en soi une élévation. C'est déjà irriguer son âme de choses.
Et connaissez-vous une personne qui soit allée à la messe du dimanche pendant 2 ans de suite et qui n'ait pas la foi à la fin ?
Personnellement, je n'en connais pas.
Non, mais c'est parce que les gens n'ont pas la patience. Je suis sûr qu'ils iraient pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, s'il le faut, à la messe tous les dimanches. Ça m'étonnerait qu'ils finissent sans avoir la foi.
Et je l'espère et je prie pour. En fait, voilà, même sans foi ardente, il faut fréquenter ces églises, parce que ça nous enrichit. Et aussi, je défendrai quand même globalement la messe traditionnelle, même si je n'y vais pas tous les dimanches. Je suis à moitié moderne. De temps en temps, je vais à la messe Saint-Paul VI et de temps en temps, je vais à la messe Saint-Pie V. Mais je dois reconnaître quand même la supériorité rituelle de la messe Saint-Paul-Pie V, qui offre vraiment beauté sacrée. C'est un trésor de la... En fait, c'est vraiment le trésor de notre civilisation. D'ailleurs, c'est là peut-être où je suis entre tradition et modernité. C'est-à-dire que je considère que la messe Saint-Pie V, c'est un modèle très européen et occidental. Je considère que pour les autres civilisations, notamment si dans l'optique de christianiser par exemple la Chine ou le Japon, je pense que ce modèle de messe-là devrait être adapté aux cultures locales, dans des rites adaptés culturellement. Mais je trouve que pour la civilisation européenne, le rite Saint-Pie V a une richesse et une beauté que le rite Paul VI n'a pas. Et c'est pour ça que je dis, mais même quelqu'un qui est déjà chrétien, s'il veut être dans cette démarche de redevenir un gentilhomme, je pense que aller au moins de temps en temps à la messe traditionnelle, enfin, toutes les messes sont traditionnelles, mais au moins à la messe Saint-Pie V, qui est la plus ancienne messe encore, même si elle est assez récente en France, elle date du 19e.
Non, elle ne date pas du 19e, elle date de Saint-Pie V.
La messe Saint-Pie V, elle existe effectivement depuis, je crois, le 16e, mais elle n'est en France que depuis le 19e, qu'après la Révolution française. Avant, c'était le rite gallican.
Ah oui, mais enfin, ce qui se rapprochait pas mal.
Peut-être, mais c'est pas exactement. Mais bon, après, on peut dire que c'est. Oui, non, je fais ça en détraction de ceux qui disent la messe de toujours, ça n'a pas été la messe de toujours. Bon.
Ah oui.
Et avant, il y avait le rite gallo. Mais effectivement, il y avait quand même une.
Donc la messe actuelle est particulièrement brève, mais elle correspond aussi aux besoins de la société.
Alors oui, honnêtement, c'est vrai que si vous allez un dimanche à la grand-messe du Christ-Roi, vous en avez pour 2 heures. Mm-hmm. Mais j'ai déjà assisté à des messes rite Saint-Pie-V en messe basse.
Ah oui, en messe basse, oui.
50 minutes, mm-hmm. C'est rapide. On a bien 50 minutes à offrir dans une semaine.
Mais bien sûr, bon. Mais bien sûr, vous avez raison.
Et donc voilà, il faut trouver votre communauté, votre paroisse qui vous plaise. Moi, ça, c'est quelque chose. Longtemps, ma mère disait toujours qu'il faut être fidèle à sa paroisse. Je ne pense pas. Je pense qu'il faut trouver la paroisse qui nous correspond.
Oui, mais madame, votre mère avait quand même raison. On fait avec ce qui nous est donné. On fait avec son père, on fait avec sa mère, on fait avec sa paroisse.
Oui, mais j'ai eu un prêtre vraiment hérétique à une époque, on est fini par partir.
Ah oui, bon, mais là c'est un cas extrême. Et
ça se voyait que sa messe n'était plus sainte, puisque vers la fin, avant qu'il soit, on va dire, changé, mis à la retraite d'office par l'archevêché.
Ah ben oui, mais c'est un cas, ce monsieur.
Oui, enfin, il n'y avait plus que 10 personnes à sa messe.
Ah bon?
Non.
Oh là là, les pauvres.
C'est peut-être un signe. Voilà, mais aussi. Même si vous n'avez pas la foi, moi je vous encourage si vous avez des amis très chrétiens dans votre entourage, faites baptiser vos enfants et choisissez de très bons parrains chrétiens.
Mais bien sûr, et même pour des gens qui n'ont pas la foi, moi je soutiens qu'aller à la messe les revivifie de l'intérieur, les remet en rapport avec une tradition ancienne, antique, qui est notre tradition première, la tradition qui nous a créés, qui nous a fait ce que nous sommes, les Français. Et les Français, mais comme les Anglais pourraient dire la même chose, les Allemands aussi, avec des trajectoires différentes. Et aller à la messe, c'est renouer avec ses racines. Et comme vous le disiez tout à l'heure, une heure par semaine, bon, qui peut ne peut pas les dégager,
hein. Oui.
Et s'il y va en sachant qu'il va y trouver ça, cette espèce de sève qui va le nourrir, d'abord, il risque très très facilement de retrouver la foi, mais il y trouvera beaucoup d'intérêt.
Et surtout que, en fait, moi je pense que l'idéal politique que nous devons avoir, ce n'est pas un idéal idéologique, c'est l'idée de ce que j'appelle la refrancisation, se refranciser. Mmh. Et je pense qu'on ne peut pas faire fi de l'héritage chrétien. Donc quand on veut se refranciser, ça doit, même si on n'a pas la foi, passer par l'héritage chrétien. Et d'ailleurs, je conseille, pour toute personne qui n'a pas la foi, je recommande un livre, Génie du christianisme de Chateaubriand.
Ah oui.
Voilà. Vous lisez juste ça. Et laissez-vous...
Vous l'avez voulu?
Non, parce que je n'en ai pas besoin. Mais je le recommande beaucoup.
Pharisien. Pharisien. En fait, c'est un monument de littérature.
Oui,
en tout cas.
C'est un monument de littérature.
Et parce que même si ce n'est pas le christianisme qu'on va y trouver, on y trouvera le génie de la langue française.
Exactement. Ensuite, s'il y a aussi à enrichir sa vie intellectuelle, et pour moi, il n'y a pas de mystère, on peut écouter des podcasts ou de très bonnes émissions de radio, comme par exemple sur Radio Courtoisie. Pour moi, c'est surtout la lecture. Et alors, j'aimerais modestement apporter ma pierre à l'édifice pour vous dire comment nourrir votre âme par quelques lectures qui, je pense, mènent à l'appel à l'idéal aristocratique.
Est-ce que vous nous laisseriez le temps d'écouter un peu de musique? Une musique que vous avez choisie.
Attendez, je regarde juste. Est-ce que vous pensez que je cite juste les œuvres ou on les cite après, parce que sinon on va être coupé. Est-ce que vous me donnez 30 secondes pour les citer?
Mais oui, mais alors, mais citez-les en plus de 30 secondes, parce qu'il faut que ça s'imprime vraiment dans nos têtes.
Alors, moi, je recommande, dans les classiques intemporels qui vont vraiment enrichir votre âme, Aristote, comme Éthique à Nicomaque, ou Politique, les confessions de saint Augustin et globalement l'œuvre entière de saint Thomas d'Aquin, alors que plus complexe. Et aussi, je l'ai noté, René Guénon. J'aime beaucoup René Guénon.
Oui, on passe d'un domaine à un autre très facilement, et d'un siècle à un autre très facilement avec vous.
Mais si vous voulez des œuvres plus contemporaines, je trouve qu'ils abordent tous les thèmes qui sont liés à l'évolution de notre société et la place de ce que doit être l'idéal aristocratique. Alors, bon, bien sûr, il y a la mémoire d'outre-tombe de Chateaubriand, mais qui n'est pas, je pense, pour les néophytes. Mais vous avez vraiment Le Guépard de Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Donc, Le Guépard. Vous avez, je l'ai là d'ailleurs à côté de moi, Le désert des Tartares de Dino Buzzati. Vous avez aussi Au plaisir de Dieu de Jean d'Ormesson. Et puis vous avez aussi Peggy Bernanos, où essaie sur la modernité de Tocqueville. Donc voilà, ça c'est des, globalement ce que je peux vous recommander comme lecture. Et si vous voulez rire un bon coup, un bon film, Noblesse oblige, très très bon film. En anglais c'est Kind Hearts and Coronets. Donc voilà, c'est un film que je vous recommande chaudement.
Bon, alors maintenant nous allons écouter de Piotr Ilitch Tchaïkovski, La valse des fleurs, extrait du ballet Le Casse-Noisette, interprété par l'orchestre, l'orchestre symphonique de Prague, et dont j'espère qu'on va nous le faire écouter en entier cette fois-ci. Thank you. Chers auditeurs de Radio Courtoisie, nous étions donc en train de parler du gentilhomme et de son idéal. Du reste, nous avons retrouvé le nom du moine fanatique qui a mis Florence à feu et à sang au XIVe siècle ou au XVe, je ne sais plus.
Plus au XVe, je pense.
Peut-être le XVe, ou peut-être à cheval sur les deux, qui sait. C'est Savonarole. Ouais. Vous en souveniez ?
Oui, bien sûr.
Bon, et alors maintenant, de quoi voulez-vous nous parler à propos du gentilhomme, monsieur Mahut ?
Eh bien, nous allons aborder les derniers points. Et je pense que le plus important, et ce qui est peut-être le cœur de l'émission, et le cœur d'ailleurs de la chaîne YouTube que j'ai, c'est que...
Vous avez une chaîne YouTube ?
J'ai une chaîne YouTube qui a été encore renommée AM Gentilhomme.
Ah bon.
AM sont mes initiales et gentilhomme.
Et les gens la trouveront facilement.
Oui, voilà, AM gentilhomme. Alors, mais j'étais plus connu sous mon ancien nom qui était Full Formal, mais en fait, parce que j'avais choisi Full Formal parce que c'était ce qui était écrit au dos des cartons anglais pour dire qu'il fallait venir en queue de pie. Et je présentais mes émissions en queue de pie.
Et est-ce que vous n'attachez pas trop d'importance aux détails ?
Je pense que c'est les détails qui font la vie. C'est les détails qui font tout. Si on n'a pas les détails...
Mais un gentil... Moi, je connaissais des vrais gentilshommes de naissance et d'habitude de vie et qui avaient une allure personnelle, une allure de classe dans leur comportement, mais qui n'étaient pas ni très élégants, ni très soignés.
Il faut quand même un minimum. Il faut savoir s'adapter et il faut... En fait, il faut savoir, si j'ose dire, être chic sur soi. C'est-à-dire, dans le sens, il ne faut pas être débraillé.
Ah non.
Il y a quand même, un minimum à avoir.
À aucune négligence.
Bien sûr, je ne dis pas qu'il faut être un dandy. Encore une fois, ce n'est pas ce que je dis. Il ne faut pas être un dandy. Mais il faut toujours...
Enfin, vous avouez, j'ai eu la curiosité de regarder un peu votre site internet. Ça flirte très très proche du dandysme.
On a tous notre part un peu de dandy, de coquetterie, le terme anglais.
Enfin,
le terme
êtes encore très jeune, vous avez 27 ans.
J'ai 27 ans.
Bon, je pense que le dandy se mue en gentilhomme au fil du temps.
Oui, bien sûr. Mais je pense que ce que vous m'avez dit, il y a un sens et qui est lié à l'évolution, c'est qu'il y a quand même une perte vestimentaire au fil du temps. Dois-je vous rappeler que jusque dans les années 50, on n'allait pas à l'opéra si on n'était pas en queue de pie. Je ne parle pas de Mathusalem, je parle d'il y a 70 ans.
Mais c'est-à-dire que la culture de cette qualité n'avait pas été ouverte à tout le monde.
Oui, non, bien sûr. Mais encore...
Et parce que de toute façon, ceux qui ne viennent pas en queue de pie à l'opéra, ils pourraient très bien y être. Ce sont des bobos enfants de 68. Parce que de toute façon, ce qu'on pourrait appeler le petit peuple ne va pas à l'opéra.
Je suis...
faible proportion.
Je dirais qu'il y a des gens qui veulent s'élever. Et c'est eux qu'on verra se distinguer.
Mais bien sûr, et les gens qui veulent s'élever aiment aller dans un endroit de grande culture, bien habillé.
Et oui. Et moi, ce que je remarque, en fait, c'est un peu... Parfois, je me bats avec mon père. Mon père me dit, Adrien, tu t'habilles comme un vieux monsieur. Et je lui dis, mais justement, vous ne comprenez pas, cher père, vous ne comprenez pas que c'est la ringardise, c'est justement aujourd'hui de ne pas être bien habillé. Et qu'aujourd'hui, je vous donne un exemple. Quand j'étais en rallye, je parle comme si j'étais déjà vieux. Quand j'étais en rallye...
Ça date de 10 ans quand même.
Oui, ça date d'il y a 10 ans. Il y a 10 ans, on mettait un petit pantalon blanc en coton, un petit chino... On mettait une cravate club et on mettait un blazer bleu à boutons dorés et c'était tout. Et ça faisait notre tenue pour...
L'année de rallye.
Pour l'année de rallye.
Mais le rallye était où ?
Bon, après, moi, j'étais des rallyes de province. J'étais rallye de Rouen et rallye Picard.
Oh là là, le rallye de Rouen. Ça devait être pittoresque, ça.
C'est pas les rallyes parisiens. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que je remarque ? C'est qu'aujourd'hui, les rallyes, maintenant, ils sont en smoking.
Pas tous.
Pas tous, mais même en province, les gens mettent des smokings. En province, disons que les choses mettent plus de temps à arriver parce que tout vient toujours de la ville. Mais je vous assure que les choses sont en train de changer chez les jeunes. Et à l'époque où jusque dans les années 2000-2010, on avait des pantalons très proches du corps. Aujourd'hui, c'est pour ça que mon père me dit « tu mets des pantalons de vieux monsieur » parce qu'aujourd'hui, non, les jeunes veulent des coupes plus amples qui étaient les coupes des années 30. Mmh. Et on veut retourner vers ces... les pantalons taille haute reviennent à la mode. Mmh. Qui étaient ces coupes-là, plus des années 30, 40. Donc,
si bien que les jeunes qui portent des pantalons qui montrent la moitié du slip ne sont pas du tout à la mode.
Ah non, oula, j'ai avalé de travers. Non, non, ils ne sont pas du tout à, ils ne sont pas du tout à la mode. Non, au contraire, ce sont des néo-ringards.
Oui.
Mais
est-ce qu'il n'existe pas plusieurs modes pour les différentes classes sociales ?
Je crois qu'il y a une véritable victoire de. Je pense qu'il y a eu une véritable victoire anthropologique de la politesse bourgeoise à partir du 19e siècle. Et nous ne sommes toujours pas sortis de la politesse bourgeoise.
Mais est-ce que le vêtement vous indique quel sera le degré de politesse de la personne ?
Pas forcément. J'ai connu des cuistres qui s'habillaient très bien. J'ai connu des hommes de grande classe qui s'est. C'est un tout. On ne peut pas limiter la chose aux vêtements.
Alors, le gentilhomme, c'est celui qui arrive à harmoniser toutes ces vertus-là.
Oui, je pense. Je pense que c'est... En fait, c'est plusieurs choses. C'est la posture, c'est le savoir-être, le savoir-vivre, et l'élégance générale, c'est-à-dire la tenue et la posture. C'est un ensemble des choses. Vous voyez quelqu'un en costume et qui est tout avachi, a l'air rabougraï, qui est désagréable, vous n'allez pas vous dire que c'est un gentilhomme. Or que quelqu'un qui a juste un petit polo, qui sort de son tracteur de jardinage, son Kubota pour tondre le jardin, l'anglaise de son domaine, et qui est un bon port, qui se tient droit et qui a un grand sourire, vous vous dites « Ah, ça, c'est un gentilhomme ». Donc la tenue ne fait pas tout, mais c'est quand même un élément. Vous prenez deux mêmes personnes, elles ont les mêmes qualités. Il y en a une qui se tient droite et qui est bien habillée, il y en a une qui ne se tient pas droite et qui n'est pas bien habillée. Et ben, naturellement, vous allez faire confiance plus facilement à la première. Et vous allez du moins donner plus d'importance à son discours.
N'êtes-vous pas un jeu naïf ?
Mais non, ça c'est justement la politique, c'est justement ça. Détrompez-vous, la forme est l'écume du fond. La forme, c'est le fond. Donc, je trouve que justement, c'est tout sauf superficiel. C'est une affirmation. Je vous disais tout à l'heure que une civilisation, c'est une affirmation. Et il faut affirmer quelque chose. Et une tenue, un vêtement, c'est une affirmation. Je plaide pour les mariages en jaquette parce que c'est une affirmation, une fois.
La plupart des mariages se font en jaquette, quand même.
Pas tous les mariages. Hein.
Non, pas tous.
J'ai vu tout. Moi, j'ai vu le fameux nœud papillon en bois qui est une hérésie absolue.
Ah, vous avez vu ça ?
Ah, j'ai déjà vu ça.
Nœud papillon en bois, je l'ai vu dans un restaurant récemment.
Alors, je vous raconterai des anecdotes, mais... ou alors, non, c'est des anecdotes privées, on les gardera pour après l'émission.
Revenons à
notre sujet. Sur le fameux nœud papillon en bois. Donc, je pense que il faut avoir une posture qui est droite, calme, assurée. Épaules ouvertes, tête haute, regard franc. Pour montrer en fait une maîtrise de soi, une dignité. En fait, la posture, c'est ce que les Romains appelaient d'ailleurs la dignitas. Et aussi virtus. Alors virtus, qui n'est pas de la vertu, mais de la virilité. C'est-à-dire comment on va incarner une posture de force, mais de force tranquille.
Oui.
De force qui n'est pas dominante, dominatrice, mais d'une force qui est au contraire protectrice.
Un courage assumé.
Et donc, c'est aussi une bonne posture mentale. Et qui impose un respect naturel qui se veut utile en société, en famille, ou même en politique. Et l'idée, c'est d'avoir une courtoisie authentique. Écoute, générosité, contrôle des émotions, éviter toujours l'arrogance et surtout la familiarité excessive. Parce que, en fait, la familiarité excessive montre que vous ne respectez pas l'autre. En fait, votre tenue, votre manière de parler, votre manière d'être, ça sert à deux choses. Un, montrer que vous respectez l'autre. Et deux, lui être agréable. Mmh. C'est toujours, si vous savez que, bon, bien sûr, si nous sommes entre gens qui partageons les mêmes idées, nous pouvons parler de certains sujets, mais un gentilhomme, c'est quelqu'un qui ne va pas aller provoquer. Qui, s'il sait que dans son auditoire, il y a des personnes plus sensibles, eh bien, il va faire exprès d'éviter certains sujets pour...
ne pas parler de pornographie en face de quelques douairières, par exemple.
Je l'aurais pas abordé comme ça, mais oui, bien sûr. Enfin, vous me prenez de court. Je pensais effectivement, par exemple, si vous êtes dans une, vous êtes un catholique attaché à l'Église et que vous déjeunez avec votre belle famille de la Frate Saint-Pie-X, vous n'allez pas parler des sacres. Voilà, ce sont des sujets qu'on évite.
Ah oui. C'est quand même plus convenable.
C'est quand même plus convenable.
L'exemple bien choisi, merci.
Exemple bien choisi. Donc voilà, après, ce sont des choses qu'on connaît. Bien sûr, tenir la porte à une dame. Or, il y a des règles plus spécifiques, il faut les apprendre et les connaître. Voilà, il faut aussi se lever quand quelqu'un, un supérieur ou une dame entre. Surtout, ça c'est pour moi ce qui définit vraiment une élite, c'est tenir sa parole. Ça c'est extrêmement important, c'est quelque chose qu'on sous-estime.
La loyauté était une des... du temps des vrais gentilshommes, enfin des gentilshommes de naissance, la loyauté était une des premières vertus.
Oui, c'est surtout vraiment le sens de la parole donnée, de l'honneur, c'est quelque chose qui a malheureusement disparu. Il faut vraiment un sens de l'honneur, ça c'est extrêmement important. Il faut que les gens retrouvent un sens de l'honneur et on est dans une société qui malheureusement nous humilie perpétuellement, nous rabaisse dans notre dignité d'être humain. Et je trouve qu'il faut retrouver cette dignité et cet honneur. Donc voilà. Et toujours se dire que le savoir-faire, le savoir-vivre et les bonnes manières, c'est toujours avec un objectif de respect de l'autre, de fluidité sociale, d'attention aux détails, de toujours être agréable quand on mange à table, des conversations, de la vie quotidienne. Voilà, je vous donnerai quand même...
Mais est-ce que tout ça n'est pas un peu un masque? Est-ce que ce n'est pas un peu artificiel? Est-ce que ce n'est pas un peu préfabriqué?
Je pense au contraire que c'est essentiel. C'est ce qui distingue les civilisés des barbares. Oui. C'est terrible, mais vous voyez deux tables. Mettons, vous avez une table de barbares, vous avez une table de gens civilisés. Alors, oui. Manière de manger, vous savez qui est qui?
Oui, c'est sûr.
Donc, vous voyez, c'est au contraire très important. Si on veut défendre notre gastronomie, notre culture, notre terroir, c'est aussi notre manière de vivre. Le savoir-vivre, c'est un art de vivre. Je pense que c'est un art à part entière. C'est d'ailleurs, pourtant, je vais citer un grand réalisateur, Godard, qui disait il y a la règle, il y a l'exception. Il y a la culture qui est de la règle et il y a l'art qui est de l'exception. Et après, il définit les différents arts et il dit « Il sera donc de la règle de l'Europe, de la culture, d'organiser la mort de l'art de vivre qui fleurit encore à nos pieds. » Je pense qu'il faut défendre notre art de vivre comme vraiment un acte de survie civilisationnelle. Voilà, avoir toujours ces gestes simples qui distinguent. C'est pour ça que je vous conseillerais, je ferai quelques conseils de lecture. Tout d'abord, je vous conseillerais les ouvrages de l'édition de l'Honnête Homme. Je connais comment appelle-t-on l'éditeur.
Oui.
L'éditeur des éditions de l'Honnête Homme.
Qui s'appelle
Il veut rester discret.
Ah bon. On était prêt à lui faire un peu de publicité.
Je ne vais pas demander, mais c'est quelqu'un de très gentil, très agréable. Et je vous recommanderais plusieurs ouvrages de cette édition. Livre sur le style classique, les 12 vertus d'un bon maître, connaître son tempérament, et aussi, oui, je ne l'ai pas noté. Bon, mais il a fait des guides de pratiques de bienséance et de savoir-vivre, notamment, il a repris aussi celui, mais qui est un peu usé, un peu ancien, de...
Le Baron Staff.
Non, de... Saint-Jean-Baptiste de la Salle. Moi, j'étais de la Salien, j'étais à l'école Saint-Jean-Baptiste de la Salle.
C'est mieux que la Baronne Staff.
Oui, au-dessus, bon, de l'Emmanuel, le très classique, Nadine de Rothschild, le bonheur de séduire, l'art de réussir,
oui.
Savoir-vivre au XXIe siècle, chez Robert Laffont. Voilà, il faut aussi comprendre, la plus importante, c'est que la tenue est un langage, elle montre le respect de soi et des autres, et comprendre aussi que l'élégance, c'est la qualité. Mais c'est surtout la sobriété, l'intemporalité. Ce n'est pas l'ostentation. On est là pour montrer une élégance, une prestance, mais qui s'efface derrière les femmes. Notamment, c'est pour ça qu'on portait l'habit à queue de pie qui était en noir, pour que les femmes montrent leur toilette de couleur. C'est l'idée, on n'est pas un dandy, on n'est pas là pour parader avec nos plumes, nos grands chapeaux, nos grandes tenues.
Et alors, comment faites-vous comment vous mettez ensemble les réseaux sociaux qui exhibent les gens dans leur intimité, quelquefois, et l'idéal du gentilhomme?
On peut se montrer sur les réseaux sociaux, c'est pas un problème. Au contraire, je pense qu'il faut montrer des belles tenues. Mais c'est un comportement. Il faut toujours se dire que son élégance n'est pas là pour écraser les autres. Elle est là, au contraire, pour leur montrer et leur témoigner du respect. Voilà, vous m'avez invité à cette émission. Il m'a semblé juste de mettre une cravate et une veste. Parce que j'étais invité.
C'est pour me faire remarquer que j'en ai pas.
Ce n'est pas du tout ce que j'ai dit. C'était pour vous faire témoigner mon respect. Voilà, toujours. En fait, c'est une question de discipline. Votre chemise, vous les repassez. Vous cirez vos chaussures. C'est aussi voilà, des rituels que vous allez faire. Apprendre à faire des nœuds de cravate. Avoir aussi des couleurs classiques, des matières nobles. Pas acheter du polyester, acheter des costumes en laine.
Oui, est-ce que tout le monde a les moyens de ne pas s'acheter du polyester?
Moi, je vous ferai... alors là, c'est mes conseils pratiques. Les friperies. Moi, je m'habille quasiment exclusivement en friperie où j'achète sur Vinted. Vous trouvez un bon retoucheur, vous trouvez des merveilles. Là, nous sommes à Paris. J'aurai 3 bonnes adresses à vous recommander. Je vais dire de la plus qualitative, mais plus chère, jusqu'à la un peu moins qualitative, mais moins chère. Vous en avez 3. Vous avez The Manchego. Vous avez chez Amar et chez Simons. Ce sont les 3 adresses. Après, sinon, si vous voulez vraiment casser des petits prix et trouver quelques merveilles, notamment la veste que je porte aujourd'hui, je l'ai achetée 10€. C'est rue Saint-Denis. Vous longez la rue Saint-Denis et vous avez des tonnes de friperies. Alors, c'est les cavernes d'Ali Baba, mais vous pouvez trouver de très belles vestes pour 10, 15, 20€. Donc, pour moi, il n'y a absolument pas d'excuse à ne pas bien... Il n'y a pas d'excuse à bien s'habiller. En réalité, tous les budgets peuvent vous permettre de bien vous habiller. Vous trouvez des cravates à 1€ sur Vinted.
Elles ne sont pas en soie.
Comment ?
Elles ne sont pas en soie.
Ça dépend lesquelles, mais oui, enfin... Mais vous trouvez un peu de tout. Voilà. Alors, cette cravate, c'est de la cravate de quand j'étais dans un collège international anglais, à Chavagnes. L'International College of Chavagnes. Bon, bref. Donc voilà.
Alors je vois dans les manuels que vous nous conseillez un livre de Frédéric Rouvillois, L'histoire de la politesse de 789 à nos jours.
Oui, j'avais oublié de le citer. Pour moi, c'est un peu ma Bible. C'est vraiment. Merci de me faire remarquer que je l'avais oublié. Histoire de la politesse de 1989 à nos jours. Frédéric Rouvillois, j'ai une amie qui l'a eu comme professeur, c'est un professeur de droit.
Oui, je sais.
Et
il est venu une fois à mon émission.
Ah ben très bien. Et vraiment, un ouvrage de référence, il m'aide à me préparer mes émissions. Voilà, j'en ai fini sur cette petite partie, nous pouvons passer à la suivante, ou s'il y a une musique.
Nous allons maintenant écouter d'Antonio Vivaldi. Alors, je ne sais pas, j'avais demandé le deuxième mouvement de l'hiver des 4 saisons, interprété par l'Aperto Orchestra, mais j'ai l'impression qu'on nous a prévu autre chose. En tout cas, ce sera du Vivaldi. Thank you. Alors, chers auditeurs, nous sommes en compagnie de Adrien Mahieu, qui nous parle du gentilhomme et de l'idéal chevaleresque, dirons-nous.
Aristocratique, oui, chevaleresque.
Chevaleresque.
C'est vrai que nous aurions pu utiliser chevaleresque.
Et nous allons terminer peut-être par la partie culturelle.
Oui.
En quoi le gentilhomme doit-il passer sur certaines fourches codines de la culture ?
Je pense que quand on veut aspirer à un idéal, il faut vraiment adhérer à 100% au projet. Et donc pour ça, il faut, faut adhérer à un style de vie et surtout à un style d'activité, de choses qui vont nourrir sa vie, qui doivent être liées à cet idéal aristocratique. Les bonnes manières se vivent pleinement dans des activités qui expriment notre distinction par notre attachement, notamment au sol français et à l'enracinement. Ces pratiques, elles forgent les élites, notamment patriotes, mais surtout enracinées, capables de leadership et de transmission. Elles contrastent avec les loisirs passifs et déracinés modernes. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais tous nos loisirs, enfin les loisirs modernes, sont passifs. Vous regardez la télévision, vous regardez votre écran, vous regardez TikTok.
Ou alors ils sont, comme vous le dites, déracinés. Par exemple, ne pas pouvoir faire du skateboard ailleurs que dans la baie de San Francisco. Aller à l'autre bout du pôle pour faire du ski. Non, on peut trouver son plaisir proche de soi et ne pas lier ses loisirs, son intérêt pour la distraction au coût que ça nous coûtera.
En fait, je reviens un peu sur les définitions, mais je pense que ce qui définit l'aristocrate, au sens large du terme, le gentilhomme, l'aristocrate, c'est que c'est une des élites qui a cette particularité qui est de l'attachement à la terre, au fief. Et c'est pour ça que je conseille plusieurs choses. D'abord, les activités culturelles, les activités sportives et les activités festives et sociales. Voilà, je parle... Alors, pour les activités culturelles, moi, je dis allez le plus possible. Et surtout, si vous êtes jeune, c'est pas cher. Je regardais, il y a des tarifs étudiants, il y a des tarifs jeunes. C'est l'opéra, le théâtre classique, les concerts. Allez voir les pièces classiques, allez voir les opéras classiques, allez au philharmonique, écoutez...
Mais est-ce que vous pensez qu'avec une éducation nationale telle que nous l'avons, elle incite les gens, les jeunes à aller dans toutes ces salles de spectacle?
Mais vous savez, je vais faire plaisir à mes amis libertariens, mais quand l'État, puisque l'État n'est pas capable de faire les choses, il faut le faire soi-même. Et c'est aussi, c'est là, ça revient sur notre premier point sur la famille, c'est à vous d'éduquer votre famille pour qu'elle ait ce goût, elle ait cette appétence au théâtre, à l'opéra, au classique. Vous avez aussi les musées, le patrimoine. C'est gratuit, les musées.
Pourtant, ils sont désertés.
Ben oui, mais si on veut être une élite... En fait, il faut comprendre que Macron peut lui reprocher plein de choses. Enfin, je cite Macron. Je retire ce que j'ai dit.
Emmanuel Macron.
Emmanuel Macron. On va dire que c'est la fatigue. Nos élites, je veux dire de manière... On peut reprocher à nos élites... Mais 45 secondes avant quoi ?
Je crois qu'on nous indique qu'il nous reste 37 secondes maintenant.
D'émission ?
Oui.
Mais je croyais qu'on avait 10 minutes.
Non.
Bon, mais pour faire simple, je vais faire rapide. Voilà, musée, théâtre, patrimoine. Le sport, il faut adhérer plutôt à des sports aristocratiques, sport équestre, la chasse... Je serais plutôt un grand défenseur de la chasse traditionnelle, des arts comme les arts martiaux comme l'escrime, pourquoi pas la boxe, le tir au fusil et l'arc, et puis les balles, les activités festives et sociales, balles, courses de chevaux hippiques, banquets, gastronomie locale, enfin les banquets populaires.
Oui.
Voilà,
un ancrage rural. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Je vous remercie beaucoup, Adrien Mahieu, de nous avoir présenté tout ça dans le détail. Et vous aviez encore beaucoup de choses à nous dire. Mais enfin, vous avez brossé un idéal qui est peut-être l'idéal de ce qu'on peut appeler un homme, finalement, un homme équilibré.
Mais c'est ça, en fait. L'idéal aristocratique, c'est un idéal auquel tous nous sommes appelés, comme je vous ai dit. pour le citoyen, c'est le saint est pour le chrétien ce que l'aristocrate doit être pour le citoyen.
Bon, eh bien, nous allons terminer là-dessus. Et je vous remercie infiniment, Adrien Mahut. Je remercie la technique de nous avoir... conseillé quand nous ne parlions pas assez près du micro, par exemple. Et je remercie nos auditeurs. Et donc, au mois prochain.
Vous venez d'entendre le libre journal de la France fidèle de Philippe Richard, diffusé en direct aujourd'hui sur Radio Courtoisie de 21h30 à 23h et réalisé par Michael. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de cette émission. Commandez-le par CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.